Le livre de Frog. Roman,
discussion,
échange,
livre.
Le livre de Frog.
Littérature,
livre,
page,
invité,
marque-page.
Le livre de Frog. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur Radio Grenouille, c'est maintenant l'heure du livre de Frog. Alors avec Erika, comme tous les mois, nous nous sommes échappés de la fac de lettres, sauf que cette fois-ci, et ça ne vous étonnera sûrement pas, au vu de l'enthousiasme que vous connaissez d'Erika, eh bien elle a pris beaucoup trop d'élan, Erika, et pour tout vous dire, elle ne s'est arrêtée qu'à Cadix. Du coup, je me retrouve à faire l'émission toute seule, mais je vous rassure, elle reviendra pour le prochain livre de Frog. Alors pour aujourd'hui, eh bien je vous propose de vous embarquer avec moi pour un livre de Frog, eh bien on pourrait dire mexicain si on en croit le lieu où se déroule notre roman, 2666. Ou chilien, si on se réfère à son auteur, Roberto Bolaño. Tout de suite, un extrait de 2666, lu par notre invité du jour, Emmanuel Picot.
Lorsque vous avez attrapé Jurevitch, dit le jeune type, et alors sa voix fut annulée par le bruit assourdissant d'un moteur diesel. Un gros poids lourd se gara sur l'esplanade, la serveuse mit sur la table un café et un beefsteak, avec de la sauce. Le jeune type continuait à parler de ce Jurevitch que le type aux cheveux blancs avait attrapé. « Ça n'a pas été difficile, dit le type aux cheveux blancs. »« Un assassin désorganisé, dit le jeune type, et il porta la main à sa bouche, comme s'il allait éternuer. »« Non, dit le type aux cheveux blancs, un assassin organisé. »« Ah, moi je pensais qu'il était désorganisé, dit le jeune type. »« Non, 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 un assassin organisé. »« Lesquels sont les pires ?» Fate coupa un morceau de viande. Elle était épaisse et tendre. Elle avait bon goût. La sauce était savoureuse, surtout après qu'on s'était habitué au piquant. Les désorganisés, dit le type aux cheveux blancs. C'est plus dur d'établir leur schéma comportemental. Mais on arrive à l'établir, dit le jeune type. Avec des moyens et du temps, on arrive à tout. Fate leva une main et appela la serveuse. La serveuse lui demanda ce qu'il voulait. Un autre café et un grand verre d'eau. Nous nous sommes habitués à la mort, entendit-il dire au jeune type. Il en a toujours été ainsi, dit le type aux cheveux blancs, toujours. Au XIXe siècle, au milieu ou à la fin du XIXe siècle, dit le type aux cheveux blancs, la société avait l'habitude de passer la mort par le filtre des mots. Si on lit les chroniques de cette époque, on dirait qu'il n'y avait presque pas de faits délictueux, ou qu'un assassinat était capable d'émouvoir tout un pays. Nous ne voulions pas avoir la mort dans notre maison, dans nos rêves et nos fantaisies. Cependant, c'est un fait qu'il se commettait des crimes terribles, des gens découpés en morceaux, des viols de tout type, et même des assassinats en série. Évidemment, la plupart des tueurs en série n'étaient jamais arrêtés. Si vous en doutez, jetez un coup d'œil sur le cas le plus célèbre de l'époque. Personne n'a su qui était Jacques l'Éventreur. Tout passait par le filtre des mots, convenablement adapté à notre peur. Que fait un enfant quand il a peur? Il ferme les yeux. Que fait un enfant qu'on va violer et puis tuer? Il ferme les yeux. Il crie aussi, mais d'abord il ferme les yeux. Les mots avaient le même sens. Et c'est étrange, car tous les archétypes de la folie et de la cruauté humaine n'ont pas été inventés par les hommes de cette époque, mais par nos ancêtres. Les Grecs ont inventé, pour le dire d'une manière ou d'une autre, le mal. Ils ont vu le mal que nous portions en nous. Mais les témoignages et les preuves de ce mal ne nous émeuvent plus. Ils nous paraissent futiles, inintelligibles. On peut dire la même chose de la folie. Ce sont les Grecs qui ont ouvert cet éventail. Et cependant, aujourd'hui, cet éventail ne nous dit plus rien. Vous allez me dire que tout change. Évidemment, tout change, mais les archétypes du crime ne changent pas. De la même manière que notre nature ne change pas non plus. Une explication plausible est que la société à cette époque était restreinte. Je suis en train de parler du 19e, du 18e, du 17e siècle. Bien sûr, elle était petite. La plupart des êtres humains se trouvaient à l'extérieur de la société. Au 17e, par exemple, dans chaque voyage de navire négrier, il mourait au moins 20% de la marchandise, c'est-à-dire des gens de couleur qui étaient transportés pour être vendus, disons en Virginie. Et ça n'émouvait personne. Ça ne paraissait pas dans le journal de Virginie. Personne ne demandait qu'on pende le capitaine du navire qui les avait transportés. Si au contraire, un propriétaire souffrait d'une crise de démence et tuait son voisin, puis retournait en galopant chez lui, où, à peine descendu de selle, il tuait sa femme, au total 2 morts, la société virginienne vivait dans l'effroi durant au moins 6 mois, et la légende de l'assassin à cheval pouvait traverser des générations entières. Les Français, par exemple, pendant la Commune de Paris de 1871, des milliers de personnes ont été assassinées et personne n'a versé une seule larme sur elles. À cette même époque, un aiguiseur de couteau a tué une femme et sa vieille mère. Pas la mère de la femme, mais sa propre mère, cher ami. Puis il a été abattu par la police. La nouvelle n'a pas seulement fait la une des journaux de France, mais a été rapportée dans d'autres journaux d'Europe. Il y a même eu un entrefilet dans l'Examineur de New York. Réponse : les morts de la Commune n'appartenaient pas à la société. Les gens de couleur morts à bord d'un navire n'appartenaient pas à la société. Alors que la femme morte dans une capitale de province française et l'assassin à cheval de Virginie appartenaient, eux, à la société. Ce qui leur arrivait pouvait donc être écrit, était lisible. Même comme cela, les paroles avaient plus tendance à s'exercer dans l'art de cacher que dans l'art de dévoiler. Ou peut-être dévoilait-elle quelque chose. Quoi ? J'avoue que moi, je l'ignore.
Le livre de Frog. Bonjour Emmanuel Picot.
Bonjour.
Bienvenue au Livre de Frog, je suis ravie de vous accueillir. Ça faisait très longtemps qu'on voulait accueillir un libraire dans notre émission. Peut-être que nos auditeurs se souviennent que Erika, pour la dernière chronique des libraires, était passée à l'Histoire de l'œil dans votre librairie et avait comme ça glané des très bons conseils de lecture. Alors avant d'en venir à 2666 et à ce roman de Roberto Bolaño, j'aimerais qu'on dise peut-être un petit mot de l'Histoire de l'œil, qui est une très belle librairie qui s'étend sur presque un triple espace, on pourrait dire. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre librairie ?
L'Histoire de l'œil, c'est une librairie qui a maintenant 9 ans, qui est installée dans le quartier, on va dire grosso modo, de la Plaine, Cour Julien, Notre-Dame-du-Mont, précisément rue Fontange. C'est une librairie qui n'a pas vraiment de spécialisation, sinon celle de ne faire que des livres contemporains, on va dire. Oui. Littérature contemporaine, art contemporain, et un rayon jeunesse assez conséquent maintenant, mais qui est assez graphique et pas très classique, on va dire. Et puis la particularité de ce lieu aussi, c'est qu'il est couplé avec une galerie, la galerie Achaud, comme Histoire de l'œil,
oui.
Et que donc on a une programmation d'exposition aussi... Sur toute l'année.
D'accord. Et tous les livres sont posés sur des étagères qui sont elles-mêmes sur des roulettes, ce qui vous offre aussi un choix dans la disposition, quand vous avez des choses à organiser, à accueillir un écrivain par exemple.
Ouais, la librairie peut prendre plusieurs formes différentes.
Formes. Ouais. Alors, on revient à Roberto Bolaño et à ce grand roman. On va reparler de l'histoire éditoriale de ce livre, parce que ce livre a une histoire vraiment particulière. Roberto Bolaño est mort en juillet 2003, donc à Barcelone. Il a été emporté par une maladie hépatique, il a tenté une greffe qu'il n'a pas eue. Il a pu finir le manuscrit de 2666, qui a été publié donc de façon... posthume en 2004 en espagnol et en 2008 aux éditions donc Christian Bourgois pour la traduction française. D'ailleurs, on ne va pas oublier de citer le traducteur, comme on oublie trop souvent de le faire. Il s'agit ici de Robert Amucho. Alors, Roberto Bolaño est né à Santiago du Chili en 1953. Il a passé une partie de son enfance au Mexique, qu'on retrouve d'ailleurs dans 2666. Il est retourné au Chili très peu de temps, puisque c'était au moment du coup d'État en 1973. Et il s'est surtout fait connaître par ses nouvelles et par ses romans, la littérature nazie en Amérique, Les Détectives Sauvages. Il a eu plusieurs prix à la fin des années 90 en Espagne. Mais c'est vraiment, ou alors encore plus, on va dire, avec 2666 et avec l'histoire éditoriale de ce livre qu'il a été connu. Certains critiques n'ont pas hésité à dire que 2666 était même un des grands événements littéraires du début de notre siècle. Alors, il me faut résumer ces 1350 pages, ce qui est impossible. Mais je vais essayer quand même au moins de lancer le récit, puisqu'on va revenir à certaines parties du récit au fil de notre discussion. Mais lançant le début, quatre universitaires européens, Jean-Claude Pelletier, Piero Morino, Manuel Espinosa et Liz Norton, se passionnent pour un mystérieux écrivain du nom de Benno von Archimboldi. Un nom très étrange, à moitié italien, à moitié allemand, qui n'est pas bien sûr sans faire penser à Giuseppe Arcimboldo, le fameux peintre du XVIe siècle. Et il se passionne tellement pour son œuvre que non seulement il espère pour lui le prix Nobel, mais imagine même le ramener en Europe à ce moment-là, puisque en plus d'être particulièrement mystérieux, Archimboldi, eh bien, très peu de gens l'ont vu. Et surtout, il a peut-être disparu en Amérique centrale, plus particulièrement au Mexique. En tout cas, c'est là que se rendent nos quatre universitaires, puisqu'ils partent à sa recherche. Le livre est constitué de 5 parties, on va y revenir. Et dans ce livre, qui est sûrement la preuve des ambitions littéraires, stylistiques, narratives de Roberto Bolaño, il y a du vaudeville, il y a de la mélancolie, il y a une toile historique qui est celle du XXe siècle et de ses guerres, il y a un roman noir, il y a du macabre, il y a aussi de l'humour. C'est un livre total et en même temps, il n'est pas évident de saisir toute la profondeur de cette totalité. D'ailleurs, à la fin du livre, on peut lire quel héritage mystérieux et on peut penser du coup à l'héritage de Bolaño lui-même puisqu'il est mort à ce moment-là. Alors après cette longue présentation, en même temps le livre le demande, première question rituelle, pourquoi avoir choisi ce livre plutôt qu'un autre ?
C'est une excellente question. J'avoue que je le regrette un peu déjà parce que c'est un livre que j'ai lu il y a 2 ans à peu près. Je pense que je l'ai choisi parce que c'est un des livres qui m'a le plus marqué de toute ma vie, je crois, ouais. sans être trop grandiloquent. C'est un livre... C'est un livre vraiment monumental par sa forme qui est intimidant, oui. Mais qui touche à tellement de choses, qui raconte tellement de choses et qui en même temps ouvre à tellement de questions que voilà, je pour l'instant c'est un des 2-3 livres qui m'ont vraiment beaucoup beaucoup remué et qu'il fallait bien en choisir un parmi ces 2-3, alors du coup j'ai pris celui-ci.
D'accord. C'est vrai que l'ampleur du livre est tant au niveau des genres, par exemple. Alors l'extrait qu'on a lu, que vous avez lu tout à l'heure, touche quand même à ce qu'on pourrait appeler le roman noir. C'est un genre que Bolaño aborde. Enfin, il joue avec les codes du roman noir dans ce livre, même si 2666 ne peut se résumer à ce genre-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez apprécié dans votre lecture ou vous avez vu rapidement que de toute façon c'était dépassé ? Enfin, c'est un objectif qui le dépasser, c'était pas son seul objectif.
Ouais, ça me plaît beaucoup parce que d'une manière générale, je suis assez attiré par les bouquins qui vont se jouer justement de ces codes-là, qui sont des moi j'appelle ça des faux polars.
Oui, voilà, c'est un faux polar.
Et je suis très à l'aise avec ça, parce que j'aime ces codes-là, mais j'aime aussi quand on en fait autre chose et qu'on raconte un peu autre chose avec ça. Je suis beaucoup plus friand de ce genre-là que des polars à énigmes un peu plus classiques avec un enquêteur qu'on suit volume après volume.
Oui.
Et donc oui, j'étais pas du tout déçu de me rendre compte que c'était pas un polar.
Un vrai polar. Ouais. Je voulais revenir à l'histoire éditoriale dont on a un petit peu parlé. On va préciser pour nos auditeurs donc que Roberto Bolaño avait donc à peu près fini son manuscrit, avait laissé des indications à l'éditeur en disant qu'il voulait que ce livre soit publié donc en cinq volumes. Il avait même précisé la périodicité tous les ans. Et il semble qu'il ait fait ce choix notamment pour assurer l'avenir économique de ses enfants. Et d'autres enjeux se sont posés au moment de l'édition qui ont fait que le livre est paru en un seul volume et donc en une seule fois. L'ami de Bolaño qui était chargé de surveiller la parution de ce livre et l'éditeur ont dit que, c'est dans une note hein, de l'édition de poche, qu'il souhaitait aussi respecter la valeur littéraire de l'œuvre et que ça primait sur le désir de Bolaño. Est-ce que le libraire que vous êtes s'intéresse à ces histoires de fabrique ? Est-ce que vous avez été sensible à ce fait-là, c'est-à-dire que la décision de l'éditeur l'a emporté sur le désir de l'écrivain ? Alors on pense toujours que la décision de l'écrivain est souverain, là ça n'a pas été le cas. Est-ce que vous le saviez au moment de lire ce livre ?
Oui, je le savais. Je savais que c'était un roman qui était écrit en 5 parties distinctes qui peuvent effectivement se lire indépendamment l'une de l'autre. Après, l'ensemble fait tellement sens que voilà, moi je crois très content que ce soit paru sous un seul volume. Je crois que c'est vraiment une bonne idée d'avoir été contre la volonté de l'auteur. Après, c'est vrai que c'est assez passionnant, ouais, parce que ça renvoie, et chez Bolaño c'est intéressant aussi, je trouve que ça renvoie à ce que lui avait envie de faire quant au lecteur. Et au-delà de l'aspect économique pour ses survivants. Et du coup, en y repensant à ce bouquin, je me suis aussi dit qu'il y avait une vraie adresse au lecteur dans ce bouquin-là. Et donc, le fait d'imaginer comment lui, il a voulu que ce soit édité, comment lui, il l'a construit, c'est aussi imaginer comment il a voulu que nous, on le lise.
Oui.
Et du coup, oui, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et puis, ça renvoie, en plus de ça, à un côté assez excitant qui est cette figure de l'auteur un peu mystérieux, un peu méconnu, avec des petites histoires comme ça. Ça, voilà, ça saisit un peu aussi au moment où on s'empare de ce genre de bouquin.
Alors, je voulais rebondir sur la toile de fond de ce livre qui, en partie, se passe à la frontière américano-mexicaine. Et alors, je ne sais pas vous, au moment où vous avez lu ce livre, moi, j'ai pensé à quelques films. Alors, récemment, il y avait eu le film d'un réalisateur mexicain, d'ailleurs, Iñárritu Babel, où il y a l'histoire. Entre autres, c'est une narration éclatée comme Iñárritu en est le spécialiste, où on a cette nourrice mexicaine qui a la charge de deux enfants américains et qui décide de les emmener à un mariage, au mariage de son fils. Et donc, il passe la frontière et ça se passe pas très bien. Mais je voulais pour cette émission, reparler plutôt d'un livre, d'un film beaucoup plus ancien, celui d'Orson Welles, Touch of Evil, La soif du mal, qui est sorti en 1958 avec Orson Welles, avec Charlton Heston, avec Marlene Dietrich. Et alors, souvenez-vous, c'est un film des plus classiques, mais je rappelle quand même l'histoire. Mike Vargas, donc un policier de la brigade des stupes, en voyage de noces avec son épouse Suzanne, près de la frontière donc américano-mexicaine, assiste par hasard à la mort de l'homme d'affaires Rudy Linkar et de sa maîtresse, donc, dans l'explosion de leur voiture. Il décide de mener l'enquête avec le chef de la police locale, Quinlan, un homme pervers et corrompu, qui est donc joué par Orson Welles. Et très vite, leur collaboration tourne à l'affrontement, car l'intégrité de Vargas se heurte forcément à la malhonnêteté de Quinlan. Sauf que Vargas ne se doute pas pour le moment que c'est peut-être Suzanne, son épouse, qui va en faire les frais. Alors on écoute la magistrale scène d'ouverture et ce fameux plan séquence de plus de 3 minutes qui suit à la fois la marche du couple Vargas-Suzanne et le mouvement de la voiture de Rudy Linkar qui s'apprête à passer la frontière et dans laquelle une bombe est cachée. On écoute.
Thank you. folks, American citizens?
I am, yes.
Where were you born, miss?
Mrs.
What?
Philadelphia.
The name is Vargas.
Hey, Jim, you see who's here?
Sure, Mr. Vargas.
Out on the trail of another dope ring?
Out on the trail of a chocolate soda for my wife.
Your wife?
Well, you're right, officer.
Hey, can I get through?
A lot of talk up here about how you cracked that Grandy business.
Yeah, what? I hear you caught the big boss.
No, only one of them. The Grandys are a big family. Good night.
No purchases, Mr. Lineker.
Hey, I've got this...
You're American citizen, miss.
No, I got this ticking noise.
Yeah, okay.
No, really, this
Good
ticking
night.
Noise in my head.
Mike, do you realize this is the very first time we've been together in my country?
Do you realize I haven't kissed you in over an hour?
Et voilà la fameuse explosion de la voiture qui va lancer l'enquête policière et tout le film. Je vous ai vu, je vous vois prendre des notes, je vous ai vu acquiescer quand j'ai fait allusion à ce film, peut-être une réaction, c'est un film que vous aimez, c'était un film voilà, auquel vous avez pensé
Non, c'est un film auquel je n'avais pas pensé, mais je trouve que c'est une bonne idée d'en parler. Dans mon souvenir, c'est un film qui se passe du coup plutôt du côté américain, mais qui a des points de convergence ouais, avec une certaine ambiance de ce bouquin. C'est un livre sur la frontière, c'est un livre sur le désert aussi. Il y a toute une partie, je trouve, du livre de Bolaño, qui est un livre de désert, qui pourrait être un nouveau genre littéraire finalement, le livre de désert.
Oui.
Et en fait, c'est aussi dans ce film-là, Orson Welles touche un thème qui est très important dans 2666 selon moi. C'est le thème de ce que pourrait être le nouveau grand mal du 20e siècle, de la fin du 20e siècle, en tout cas fin 20e, début 21e chez Bolaño, mais Orson Welles il y touche déjà. C'est ce thème de la corruption, de l'impunité totale et du coup Bolaño lui, évidemment avec... cette série de meurtres dans le nord du Mexique dont il va beaucoup parler touche énormément à ça. Et même si c'est un bouquin aussi dans lequel il est énormément question de littérature, il y a 1000 références et 1000 digressions sur la littérature, il est aussi, je trouve, beaucoup question de comment l'auteur se fait et se situe dans ce monde qui vit comme ça et qui est rongé par ce mal-là. Et voilà, je trouve que ce film aussi aborde cette thématique-là.
Alors, on reviendra à la littérature, c'est vrai que 2666, c'est un livre pétri de références. Je voulais revenir justement sur cette partie du livre. Bon, ça apparaît dans les parties précédentes, mais il y a une partie du livre qui est vraiment consacrée à des crimes qui se multiplient donc au Mexique à la fin des années 90. Et Bolaño ne s'est pas caché, je crois, d'une référence à une situation qui s'est réellement passée à la frontière mexicaine, des meurtres en série, plus de 300 femmes qui ont disparu, qui ont été retrouvées assassinées. C'est une des parties qui est assez délicate, on va dire, à lire dans 2666. En tout cas, c'est l'expérience que j'en ai faite, puisqu'il y a un récit extrêmement minutieux de ces crimes, des enquêtes qui pataugent à chaque fois. Comment vous avez lu ce récit ultra minutieux avec lequel il faut avoir quand même un petit peu de patience, j'ai l'impression.
Ouais, en fait, c'est la partie la plus compliquée, je crois, à lire du bouquin. C'est peut-être la partie la plus longue, d'ailleurs, je ne suis pas sûr de moi, mais
si, c'est la partie la plus
compliquée. Et en même temps, c'est la partie la plus polar aussi, finalement,
oui.
du livre. On est vraiment là, les personnages qu'on suit sont vraiment les enquêteurs, ou du moins quelques policiers de cette ville de Santa Teresa, qui vont participer à la découverte des corps, mener les débuts d'enquête comme ils peuvent, parce que la police s'intéresse assez peu finalement à tout ça là-bas. Et du coup, ce qui est amusant, c'est que Bolaño, dans cette partie la plus polar de son livre, une fois de plus, il va déplacer la manière de faire et il va utiliser une écriture extrêmement systématique,
oui,
extrêmement répétitive et rester sur des faits. Donc on a effectivement un très grand nombre de paragraphes qui sont consacrés aux découvertes une à une de chaque corps avec les noms, avec les situations de ses filles avant de mourir, etc., avec les débuts d'indices. Enfin, on est presque dans des comptes rendus, finalement,
oui,
et des rapports de police qui vont être comme ça, réécrits tels quels,
oui,
et puis qui sont entrecoupés de quelques scènes d'investigation et d'avancée, et notamment sur ces deux enquêteurs qu'on suit un peu plus précisément.
Oui, c'est vrai que ça tient presque du document, hein, même,
ouais,
s'il,
ouais,
invente les noms, il invente quand même
complètement, ouais,
les lieux.
Mais c'est vrai, comme vous disiez, qu'en fait, il se base sur des événements réels qui commencent, je crois, à partir du début des années 90, 93, je crois, dans une ville qui existe vraiment, pour le coup, qui s'appelle Ciudad Reres, je,
oui,
crois.
Oui, voilà, c'est ça.
Et donc voilà, il a juste changé les noms, mais en fin de compte, c'est vraiment de ces événements-là dont il parle.
Alors là où Roberto Bolaño, dans 2666, est allé très loin aussi, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il invente une figure d'écrivain, Archimboldi. Bon, ça, d'autres l'ont fait. Il invente sa vie, ça aussi, d'autres s'y sont collés. Mais il va loin dans le sens où il invente aussi son œuvre. Alors, on n'a pas d'extrait de l'œuvre d'Archimboldi, si je me souviens bien, mais il y a les titres, il y a les communications que les universitaires font sur l'œuvre d'Archimboldi, il y a les querelles de chapelle entre les Européens et les autres. Et là, on retourne à la légende de l'écrivain. Enfin, il y a une mise en abîme comme ça qui est vraiment merveilleuse. Est-ce que ça vous a plu, cette espèce de point aveugle dans 2666 ?
Ouais, c'est assez formidable. C'est vraiment incroyable. Cette figure de Benno von Archimboldi qui est montée. Moi, je me suis même mis à penser qu'il existait vraiment. J'ai essayé de me renseigner finalement. C'est tellement précis, c'est tellement incroyable dans l'analyse littéraire qu'il fait de cet auteur qu'il invente. Notamment donc, dans cette première partie par le biais des quatre universitaires,
oui,
voilà, c'est complètement fou. Ouais. Il va très très loin dans cette mise en abîme, comme vous disiez, et il va jusqu'à effectivement construire un discours inventé par d'autres sur un auteur que lui a inventé. Enfin voilà, c'est comme une très très grosse supercherie.
Exactement.
Et c'est tellement référencé dans les comparaisons, et c'est tellement placé et bien placé dans l'histoire de la littérature que c'est tout simplement génial, sans être trop grandiloquent.
Le livre de Frog. Je voulais lire un extrait de 2666. D'ailleurs, on ne va pas vous cacher que pour l'extrait du début de l'émission, on avait hésité avec celui-là. Et on en reparle tout de suite après, puisque là, on va revenir à cette idée que Bolaño utilise la littérature pour faire la sienne. L'un des employés était un pharmacien presque adolescent, extrêmement mince, avec de grandes lunettes, qui, le soir, lorsque la pharmacie était de garde, lisait toujours un livre. Un soir, Amalfitano lui demanda, pour dire quelque chose pendant que le jeune homme cherchait dans les étagères, quel livre il aimait et quel livre il était en train de lire en ce moment. Le pharmacien lui répondit, sans se retourner, qu'il aimait les livres du genre de la métamorphose, Bartleby, Un cœur simple, Un conte de Noël. Il lui dit qu'il était en train de lire Petit déjeuner chez Tiffany de Capote. En laissant de côté Qu'un cœur simple et Un conte de Noël étaient, comme le titre de ce dernier l'indiquait, des contes et non des livres, le goût de ce jeune pharmacien cultivé était révélateur. Un jeune pharmacien qui avait été peut-être tracle dans une autre vie ou à qui peut-être dans celle-ci il lui avait été accordé d'écrire des poèmes aussi désespérés que ceux de son ancien collègue autrichien, qui préférait nettement, sans discussion, l'œuvre mineure à l'œuvre majeure. Il choisissait la métamorphose plutôt que le procès. Il choisissait Bartleby plutôt que Moby Dick. Un cœur simple plutôt que Bouvard et Pécuchet et un conte de Noël plutôt que Comte de Deville ou les papiers posthumes du Pickwick Club. Quel triste paradoxe, pensa Amalfitano. Même les pharmaciens cultivés ne se risquent plus aux grandes œuvres, imparfaites, torrentielles, celles qui ouvrent des chemins dans l'inconnu. Ils choisissent les exercices parfaits des grands maîtres, ou ceux qui reviennent aux mêmes. Ils veulent voir les grands maîtres dans des séances d'escrime, d'entraînement, mais ne veulent rien savoir des vrais combats, où les grands maîtres luttent contre ça. Ce ça qui nous terrifie tous, ce ça qui effraie et charge corne baissée, et il y a du sang et des blessures mortelles et de la puanteur. Alors je me souviens que lorsque vous cherchiez le livre pour cette émission, il n'y avait que des très gros livres. Est-ce que je dois en déduire que vous êtes plutôt pour les œuvres majeures que pour les œuvres mineures, selon la distinction qui est faite ici? Est-ce que vous avez une préférence pour les sommes que pour les exercices?
Je ne sais pas, ça je ne peux pas répondre à ça. Mais par contre, je me souviens très bien du moment où j'ai lu ce passage-là. Je m'en souviens très précisément et où je me suis dit, mais... Quel salopard ce Bolaño de nous dire ça au moment où on a un livre de 10 kilos sur les genoux et où on est en train de... Mais c'est... moi, je le suis assez, en fait, là-dedans. 2666, c'est un livre qui nous laisse pas tranquille, quoi. Dans lequel on est obligé de s'investir en tant que lecteur. Dans lequel on est obligé de lutter aussi un peu pour avancer. Et c'est... vraiment, vraiment formidable pour ça aussi. Et là, je repars sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, il y a une réelle adresse au lecteur dans ce passage-là.
Oui.
Et je trouve qu'il y a, dans cette manière d'écrire et dans cette manière de vouloir proposer un volume comme ça qui pose autant de questions, il y a une volonté de trouver un lecteur qui va lui aussi vouloir rentrer dedans, pas être passif. C'est un livre où on peut pas être passif. Et qui demande un investissement de temps, ça c'est vrai parce que c'est un gros volume, mais aussi un investissement de concentration et de volonté de partager ce qu'il a envie de nous donner, quoi.
Oui, et d'aller au bout, oui, ouais. En effet. Alors on parlait des références littéraires présentes dans ce livre. D'ailleurs, même si elles sont nombreuses, on ne sombre pas de sous leur poids. Elles arrivent toujours à propos. Il me semble que dans les écrivains de la fin du XXe siècle, il n'est pas le seul à écrire des livres en faisant les 100 pas dans sa bibliothèque. Je pense à quelqu'un comme Pierre Michon ou à quelqu'un comme Zébalt qui ont fait ça. Dans 2666, on croise Baudelaire, on croise Schwab qui va sur la tombe de Stevenson. C'est d'ailleurs une histoire vraiment très très belle. On croise beaucoup d'auteurs allemands puisque le récit l'impose, puisque Archimboldi est allemand. On croise aussi Dickens. Je voulais vous interroger là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qu'en tant que libraire, vous avez pu remarquer, cette espèce de courant d'auteurs qui sont très appuyés sur la bibliothèque? Est-ce que c'est une caractéristique de ce livre que vous avez particulièrement apprécié?
Oui, j'avais pas forcément trop réfléchi à ça, mais c'est vrai que il est beaucoup question de littérature et de l'auteur, de l'attitude de l'auteur dans 2666, et il est beaucoup question de d'avec quel livre il s'est imprégné aussi avant d'écrire. Du coup, il est évident que la fascination pour la somme de livres, pour la bibliothèque, pour l'érudition, pour une tentative d'érudition totale, voilà, c'est vrai qu'on le retrouve chez pas mal de gens, et avec beaucoup de prudence, en tout cas chez Bolaño, je trouve qu'il y a une érudition incroyable, mais qui est toujours... je ne vais pas en faire un livre parfait, c'est pas l'idée, oui. Mais c'est une prudence et une pudeur qui est assez agréable aussi dans la manière dont il amène tout ça, et dans la manière dont effectivement... Il communique cette fascination pour les autres, les autres livres. Après, c'est vrai que il peut être au travers de la bibliothèque et au travers de l'accumulation de livres, questions comme ça, oui, d'un savoir un peu global.
Ouais. Alors, peut-être qu'on pourrait, avant de passer à une chronique un petit peu particulière, puisque ce mois-ci, c'est un libraire qui a pris toute la place, il n'a pas pris que la chronique finale. Donc, on va faire ensemble cette chronique finale. Peut-être on peut dire un mot d'un travail aussi de la langue chez Bolaño, puisque ça fait aussi partie de 2666. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu dans la dernière partie, qui est donc la partie d'Archimboldi. On découvre enfin l'histoire de cet écrivain, son enfance, son vrai nom, puisque c'est un pseudonyme, donc c'est Hans Reiter. Et il y a des parties très belles sur l'enfance d'Hans Reiter, notamment dans sa façon de parler. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage où il est sauvé de la noyade, puisque c'est un petit garçon qui adore être sous l'eau.
Qui adore être au fond de l'eau.
Qui adore être au fond de l'eau, qui est fasciné par les algues, par la figure du scaphandrier d'ailleurs aussi. Il est sauvé de la noyade par un touriste qui passait par là et qui apprécie d'ailleurs beaucoup la façon dont il parle. Voilà. Lorsqu'il lui demanda ce qui s'était passé, l'enfant lui répondit « Ici, rien assez ». « Quoi ?» dit Vogel. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Ici, rien assez », répéta l'enfant. Et Vogel comprit qu'ici, rien assez signifie « il ne s'est rien passé ». Et le reste de son vocabulaire était à l'avenant et Vogel le trouva si pittoresque et amusant qu'il se mit à lui poser des questions à tort et à travers, uniquement pour le plaisir d'entendre le gamin qui répondait avec le plus grand naturel. Par exemple, « Comment s'appelle ce bois ?» disait Vogel. Et le gamin répondait « Loi de Save », ce qui voulait dire « le bois de Gustave », etc. Et ce qui est très joli, c'est qu'il y a un mot par compte qu'il prononce, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qu'il prononce là parfaitement, c'est quand le touriste lui demande son nom. Alors là, tout est clair. Et je trouvais ça très beau parce que finalement, c'est la figure mystérieuse de ce livre. Et la dernière partie, qui est pour moi une des plus belles du livre, dessine enfin précisément ce petit garçon et la vie de cet écrivain qui avait plus de... on retrouve enfin des traits plus nets. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui fait aussi que cette dernière partie est assez émouvante, quoi. On voit enfin à quoi il ressemble. Est-ce que ce travail de la langue, bon là il est peut-être anecdotique, est-ce que ça vous a intéressé aussi ? Bolaño a une langue quand même.
Ouais, il a une langue vraiment. Après je suis, moi, pas sûr que ce soit dans 2666 que ce soit le plus explicite. En fait, j'ai trouvé que c'était un livre qui était tellement important dans sa construction narrative que presque il nous laisse un peu tranquille avec des effets de langue un peu trop compliqués.
Ouais.
Et du coup, c'est cette construction-là, moi, qui me semble... Bon, après, c'est évidemment, il faudrait aussi un jour lire les choses en langue originale pour pouvoir se rendre compte de ce qu'est vraiment ce boulot de la langue. La traduction est a priori plutôt très bonne de ce bouquin-là, mais sans doute qu'on passe parfois à côté de certaines choses. Mais dans 2666, il y a une construction qui est tellement incroyable, faite de, je trouve, de cercles, de voilà, il y a ces cinq parties qui vont a priori avoir un tuilage suffisamment cohérent pour qu'on se rattrape de l'une à l'autre.
Oui.
Mais finalement, on pense arriver précisément au centre du cercle que Bolaño décrit. Et puis finalement, on n'y arrive pas complètement, quoi. On s'échappe de ça et on repart vers autre chose. Et moi, c'est plus ça que le travail de langue qui est, je trouve, apparemment tranquille.
Oui.
Après, c'est pas si simple, je pense.
Le livre de Frog.
Alors, on arrive au moment de notre chronique. Alors, voilà comment j'ai imaginé les choses. J'ai un libraire sous la main, donc on va avoir quelques conseils. Mais en fait, je vais repartir de Bolaño lui-même. On a dit que 2666 était pétri de littérature. Finalement, Bolaño a des livres à vous conseiller lui-même. On va se faire son porte-parole. Il y a... D'abord, par exemple, Les vies imaginaires de Marcel Schwob, qui sont publiées dans une très belle collection, L'imaginaire de Gallimard. Dans Les vies imaginaires, je vous conseille d'ailleurs, puisque c'est un livre que j'aime beaucoup, La vie du capitaine Kidd, qui est un pirate. Et on va rester avec les pirates en vous conseillant aussi, on en parlait, Stevenson, et notamment L'île au trésor et le fameux pirate Long John Silver. Et je rajouterai, avant de laisser la parole à Emmanuel, pour d'autres conseils, sur le Mexique, bien sûr, il y a un autre grand roman du XXe siècle, de Malcolm Lowry, qui s'appelle « Au-dessous du volcan », qui a aussi beaucoup, beaucoup marqué la littérature mondiale. Emmanuel, vous aviez quelques autres livres à nous conseiller, là aussi, que n'aurait pas renié Bolaño, je crois.
Bah, oui, non seulement il ne l'a pas renié, mais il l'a lui-même un peu conseillé de son vivant. C'est un auteur mexicain qui s'appelle Sada. Et qui a publié une sorte d'ovni il y a quelques années, qui est paru en France aux éditions Passage du Nord-Ouest, qui s'appelle L'Odyssée barbare, qui est un bouquin complètement dingue, et dont je ne vais pas parler là, mais oui. Parce qu'il vient de sortir, les éditions de l'Olivier viennent de sortir un bouquin qui s'appelle Presque jamais, qui est donc un roman qui se passe, qui va être un roman de désert aussi, comme je disais tout à l'heure, qui se passe au Mexique, plutôt dans la première partie du XXe siècle, et qui va raconter les tribulations un peu d'un agronome, les tribulations amoureuses d'un agronome pris entre le désir physique de ses passages au bordel, hein, voilà, on va le dire comme ça, et puis l'amour un peu pur d'une jeune campagnarde mexicaine du nord du Mexique. Voilà, il est complètement pris entre les deux, dans les mensonges, etc. C'est plutôt drôle, et c'est plutôt vaudevillesque aussi, ou vaudevillien, je sais pas comment on dit, pour cette partie-là. Mais après, là où Sada est vraiment génial aussi, c'est vraiment dans la précision du travail de la langue.
Oui.
C'est un type qui était professeur de littérature et qui a énormément de références là-dessus, qui va travailler sur du vocabulaire un peu désuet, qui va travailler sur des formes de poésie assez complexes, mais pour un rendu hyper lisible et vraiment, c'est pareil, qui est très très étonnant au niveau de la langue et de la construction. Et encore une fois, de l'adresse au lecteur, quoi. Ouais. Le lecteur est constamment questionné, sollicité, au travers des personnages, et le point d'interrogation et le point d'exclamation n'est pas rare dans ce livre-là.
D'accord. Et Bolaño avait lu
Ouais, il l'a beaucoup défendu. Il a, alors, sur le bandeau qui est sur le livre publié récemment, il y a une citation de Bolaño. Et où il est dit que pour lui, Sada était sans doute un des auteurs qui avait fait le plus avancer la langue espagnole dans le XXe siècle. Et c'est donc, venant de Bolaño, un compliment qui est assez classe.
Ouais. Est-ce que vous avez d'autres livres ?
Oui, j'ai pensé aussi à un auteur qui est, lui, pour le coup, salvadorien, qui s'appelle Rafael Mengíbar Ochoa, qui est décédé lui aussi, et dont on est en train de publier aux éditions Cénoman un livre en 5 parties, tout comme de 1666. Par contre, là, on a fait le choix de les publier séparément, ces 5 parties. Et c'est vraiment très fameux aussi dans le genre faux polar, je trouve. C'est 5 parties où on va suivre à chaque fois un personnage différent dans de sombres affaires qui mêlent politique, journalisme, crime, etc. Et finalement, ces livres-là vont s'imbriquer comme un petit puzzle. On va retrouver de manière assez subtile des personnages du bouquin précédent, voilà, qui vont passer en toile de fond, etc. Mais l'idée est vraiment de là à écrire quelque chose d'assez, comme une sorte de photographie d'un pays et d'une ville à un moment donné, avec 5 points de vue différents et avec une noirceur assez incroyable, et finalement pas vraiment belle, mais tellement bien sentie que c'est un bon coup de cœur de cette année pour moi. Ça me fait penser, à la manière dont est construite la série télé The Wire,
ouais,
où on a comme ça 5 saisons et 5 points de vue différents.
Oui, 5 lieux.
Et en fait, on a l'impression à la fin d'avoir une sorte de conscience globale d'une ville à un moment donné et de ses tenants et aboutissants, et ça m'a donné un peu cette impression-là.
Bon, je crois que nos auditeurs vont repartir les bras chargés d'idées de lecture. Le livre de Frog touche à sa fin. Merci beaucoup Emmanuel d'avoir été notre invité.
Merci à vous.
On va remercier Sébastien à la réalisation et on se donne rendez-vous le mois prochain, et Erika sera de retour. À très bientôt.
Le livre de Frog.
Littérature, livre,
invité. Le livre de Frog.